Entre les principaux opérateurs, et bon là on pourrait citer le nombre de fois que la Commission européenne condamne des entreprises ou pointe du doigt des ententes sur les prix et ce genre de choses, voilà. Et en fait, le mythe probablement de ces 15 dernières années ou 20 dernières années qui justifie toutes les politiques et toute l'évolution vers toujours plus de libéralisme, notamment de la social-démocratie, c'est le discours sur la globalisation, l'idée que le marché est global. Mais non, le marché, il n'est pas global. C'est vraiment un mythe. Alors bien sûr, il y a des multinationales, hein, au sens où il y a des entreprises qui ont des actifs aux quatre coins du globe, mais les multinationales n'existent pas. Toutes les plus grandes entreprises internationales sont des entreprises avant tout nationales. Elles ont un siège social, elles ont un conseil d'administration où on retrouve essentiellement des dirigeants nationaux. Et même au niveau de l'actionnariat, l'actionnariat des grands groupes internationaux reste très souvent, comme je dis, statocentré. Donc en gros, les trois lieux communs les plus classiquement associés au libéralisme, le marché déconnecté de l'État, l'idéal de la concurrence et le marché global, en réalité, ce sont des fictions.
Alors, prenons une opposition très souvent établie entre le marché, qu'on va mettre désormais jusqu'à la fin de cette émission entre guillemets, et l'État. Alors, on a dit, l'État s'affaiblit, les marchés affaiblissent l'État, l'État est solvable dans le marché, et alors, on dit la solution, c'est le retour de l'État. Il faut que l'État reprenne la main, le pouvoir sur les banques, etc. Donc actuellement, on se dit, il nous faut plus d'État pour lutter contre les excès du marché.
Oui, oui, en effet. Alors ça peut même être une menace. On se souviendra quand même que dans l'entre-deux-guerres, y compris une partie de la social-démocratie, dans un contexte comparable, à défaut d'être tout à fait le même, mais au moins comparable, appelait un retour de l'État un État fort. Mais en effet, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est le fait que c'est, encore une fois, une vision des choses qui obscurcit en réalité la réflexion plus qu'elle ne l'éclaire, contrairement à ce qu'on entend très souvent. D'un côté, vous avez les libéraux qui vont vous dire le marché aujourd'hui, il est complètement déconnecté de l'État, c'est très bien, l'État ne se mêle plus de rien, l'État n'a pas à se mêler de l'économie seule, privée, libérale, est plus efficiente, plus efficace, plus productive. Parfait, c'est le meilleur des mondes, c'est le marché. Et d'autres, au contraire, qui vont dénoncer le marché en disant le marché, il soumet l'État, l'État est victime, l'État n'a plus rien à dire, donc qu'est-ce qu'il faut, le retour de l'État. Ah, donc voilà, on a l'impression qu'on a deux positions complètement antagonistes. Mais en réalité, c'est le même discours, sauf qu'on renverse simplement les termes, mais on reste dans la même structure de pouvoir. C'est la même structure de pouvoir, puisque ces deux camps, libéraux et anti-libéraux en quelque sorte, ont un point commun, qui n'est peut-être même pas perçu comme tel par eux, peu importe finalement, c'est le fait que on présuppose chaque fois qu'il y a d'un côté l'État et de l'autre le marché. En réalité, l'État et le marché sont intimement liés, et c'est ce que je montre dans le bouquin. On pourrait le montrer de toute une série d'autres façons, sur les contrats publics, le fonctionnement réel de l'économie. Moi, j'ai choisi de le faire en étudiant la sociologie, la composition en quelque sorte de l'élite économique, et en montrant combien il n'y avait pas d'un côté le monde de l'économie, de l'autre le monde de la politique, mais combien, dans une perspective très proche de Bourdieu et plus encore de ce que font Monique et Michel Besson-Charlot, combien en quelque sorte la classe dominante était constituée d'individus et plus encore l'oligarchie, vraiment la fraction dominante des dominants, était constituée d'individus qui passaient d'un espace professionnel à l'autre et pour qui marché, État, politique, économie, ça n'a pratiquement plus aucun sens. On passe allègrement d'un espace professionnel à l'autre et c'est ça qui donne corps, cohésion à cette oligarchie tout à la fois financière et politique, et non pas financière contre l'État, mais à la fois financière et étatique.
Et donnez-moi des exemples un peu plus précis, un peu plus concrets, pour montrer ce lien.
Si on étudie, par exemple, ce que je fais dans le bouquet, ce que sont devenus les grandes figures de la social-démocratie européenne de ces 20 dernières années, en gros les tenants de la troisième voie. Alors commençons dans l'ordre. Wim Kok, l'ancien Premier ministre des Pays-Bas, qui avait été même le patron de la Confédération des syndicats européens, donc trajectoire tout de même assez particulière. Wim Kok a été celui qui a démantelé l'État social et qui a incarné vraiment le basculement d'une grande partie de la social-démocratie vers le social-libéralisme. Aujourd'hui, ou jusqu'il y a peu en tout cas, il siégeait chez ING, chez Shell, TNT, KLM, donc les plus grands groupes néerlandais. Ce qui montre bien là aussi, contrairement à l'imaginaire de la globalisation, que les responsables politiques restent avant tout les protecteurs, en quelque sorte, et les diplomates, les ambassadeurs de leurs grands groupes nationaux. Alors Tony Blair, est passé chez JP Morgan Chase, qui est quand même un grand trust financier américain. Voilà, Gerhard Schröder pour l'Allemagne, lui, est devenu conseiller du groupe Rothschild. Et même Felipe González, qui est d'une génération un peu précédente en Espagne. Felipe González a lancé une société financière qui s'appelle Tagua Capital et qui est active notamment dans les hedge funds, le capital investissement. Donc là, il est à la tête d'un groupe financier qui n'est pas évidemment Citigroup ou JP Morgan Chase, mais qui est une entreprise financière. Donc on voit que...
Et la France ? Alors, des exemples français, ça ne manque pas.
Oui, des exemples français, évidemment, ça manque pas.
Il y a plein votre bouquin.
C'est que Hubert Védrine a siégé CLVMH, donc le groupe